Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h.
Europe 1 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous et bienvenue à bord. Europe 1 13h, vous le savez, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, le gouvernement présente aujourd'hui son projet de loi de simplification. 50 mesures pour simplifier la vie des patrons et des particuliers. Explication. Ça se détend dans les gares, mais ça risque de coincer dans les aéroports. Moins de perturbations que prévu demain, mais les aiguilleurs du ciel brandissent désormais la menace d'une grève pour les ponts de l'Ascension. À quoi faut-il s'attendre? Europe 1 vous dit tout dans quelques instants. L'actualité, c'est aussi ces 200 jours après le massacre du 7 octobre et toujours pas d'accord de cesser le feu et de nouvel espoir pour les familles des otages. Dans cette Europe 1 13h, la France, championne d'Europe du nombre de centenaires, il y en a 4 fois plus qu'il y a 20 ans. Et puis Emmanuel Macron chausse les crampons pour un match du Variété Club de France cet après-midi dans les Yvelines. Un match au profit des pièces jaunes. Rendez-vous à la fin de ce journal. Il est 13h03, Géraldine Amon, la tendance météo.
Agité et nuageux sur une grande partie du pays, soleil dans le sud-est, des températures en dessous des normales, 12 à 16 degrés en général, jusqu'à 20 degrés en Méditerranée. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre cette Europe 1 à 13h avec cette incertitude qui plane pour de nombreux voyageurs. Le principal syndicat des contrôleurs aériens a levé le préavis de grève pour demain. Il y aura malgré tout quelques perturbations dans les aéroports. Aurélien Fleureau, pour commencer, pourquoi cette décision de lever le préavis pour demain à la dernière minute?
Alors Céline, les détails ne sont pas encore connus, mais le ministre des Transports, Patrice Vergriete, vient de parler il y a quelques minutes d'un accord gagnant-gagnant. Ce qui est certain, c'est que les négociations entre le syndicat majoritaire, le SNCTA et la Direction Générale de l'Aviation Civile ont duré toute la nuit pour se terminer ce matin à 8h30. Les aiguilleurs du ciel protestaient contre le manque d'accompagnement social dans le cadre de la refonte de leur métier. L'objectif, c'est de les faire gagner en productivité, de moderniser le système de contrôle aérien français, s'aligner sur les normes européennes. Ils ont donc obtenu suffisamment d'avancées pour lever ce préavis en dernière minute. Et on peut évidemment penser à des augmentations de salaire et des jours de récupération.
Mais il y aura malgré tout des perturbations demain ?
Effectivement, pas de miracle. La DGAC a confirmé dans la matinée aux compagnies aériennes comme Transavia par exemple qu'elles devront supprimer un nombre important de vols. Impossible de faire marche arrière avec un tel délai. 3 vols sur 4 resteront annulés demain à Orly, 55% supprimés à Roissy. Les chiffres annoncés jusque-là, aéroport par aéroport, ont peu de chances d'évoluer positivement. Donc si vous avez un vol prévu demain au départ d'un aéroport français, évidemment, il faut prendre contact avec votre compagnie. Enfin, concernant le préavis de grève qui porte sur le pont le week-end de l'Ascension, pas de précision à ce stade. Logiquement, il devrait lui aussi être levé, mais attendons la confirmation, certainement dans les heures qui viennent.
Merci Aurélien Fleureau, spécialiste transport à Europe 1. Et pendant ce temps-là, à la SNCF, lundi, un accord a été signé avec les principaux syndicats pour aménager les fins de carrière des cheminots et des contrôleurs. La direction du groupe a donc cédé pour éviter une grève massive lors des ponts du mois de mai, mettant du même coup, on peut le dire, un sacré coup de canif dans la réforme des retraites adoptée au forceps. Une décision, Alexandre Chauveau, qui a fait vivement réagir la classe politique et notamment la droite.
Oui, avec des divergences entre Les Républicains et Reconquête d'un côté et le Rassemblement National de l'autre. ORN, Sébastien Chedu ne se dit pas choqué par cet accord et se range derrière l'argument de la SNCF, selon lequel il s'agirait d'un investissement de la compagnie susceptible de limiter les arrêts maladie en fin de carrière. On rappelle que le parti s'était fermement opposé à la réforme des retraites. Chez LR et Reconquête, en revanche, on dénonce un accord conclu au détriment du contribuable. Marion Maréchal rappelle notamment les 3,2 milliards d'euros de subventions déjà versées par l'État pour équilibrer la caisse de retraite des cheminots. Bruno Retailleau, lui, parle d'une capitulation et met en cause la passivité, voire la complicité du gouvernement. Il était l'invité ce matin de la grande interview de Sonia Mabrouk sur Europe 1.
Mais est-ce que vous croyez un seul instant, la SNCF, grande entreprise publique, qu'il n'y ait pas eu une information entre M. Farandou, le patron de la SNCF, et le gouvernement? Bien sûr que non.
Vous
donc
dire
il y a la complicité.
Qu'ils étaient totalement, pleinement au
mais
courant
bien sûr,
de telle situation.
Les avez-vous entendus dénoncer cet accord depuis 48 heures? Rien. Silence total. Donc,
et Bruno Le Maire n'a pas souhaité commenter cet accord tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres, alors que la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, affirme que celui-ci ne contrevient pas à la réforme des retraites votée par le gouvernement l'an dernier.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Alors ces menaces de grève, ces chantages qui se multiplient à l'approche des JO, qu'en pensez-vous? Venez réagir dès 13h20. Europe 1 13h vous donne la parole.
Au 01 80 20 39 21. 13h07 sur Europe 1, la suite du journal. Céline Giraud.
L'actualité de ce mercredi 24 avril, c'est aussi le traditionnel Conseil des ministres. Alors à l'ordre du jour, le projet de simplification dont on va parler dans quelques instants. En attendant, Jacques Serret, vous êtes à l'Élysée pour Europe 1. Ce Conseil des ministres, c'est aussi l'occasion pour Emmanuel Macron d'échanger avec son gouvernement avant la présentation de son discours sur l'Europe à la Sorbonne demain.
Oui, et ce discours est prêt, c'est en tout cas ce qu'assure l'entourage du chef de l'État. Emmanuel Macron s'apprête à enfiler le costume de directeur de campagne. Il monte donc au front avec comme objectif premier celui de relancer la campagne de Valérie Ayer qui tourne à vide. Les sondages ne sont pas bons pour la tête de liste macroniste. Il s'agira bien d'un discours de chef d'État, précise l'un de ses conseillers, au cas où l'on confonde l'exercice avec un meeting. Cet événement, le président l'aborde avec concentration, glisse un autre proche. En 2017, lors de son premier discours de la Sorbonne, il s'agissait pour Emmanuel Macron de lancer son quinquennat. Il y a 7 ans, la séquence avait marqué les esprits. Les idées qui naissent à la Sorbonne deviennent concrètes, se félicite un proche du président. Défendre le bilan, donc, et surtout se projeter vers l'avenir. Reste à savoir si l'appui présidentiel sera un atout ou un inconvénient pour Valérie Ayer. Sur ce point, beaucoup sont partagés dans la Macronie.
Jacques Serret à l'Élysée pour Europe 1, 13h08, alors que l'insécurité ne cesse d'augmenter en France avec près de 1000 agressions par jour en moyenne. Je voulais partager avec vous cette initiative. Le village de Sermès, 250 habitants, c'est en Saône-et-Loire, eh bien, est le premier à tester une application pour lutter contre la délinquance. Elle s'appelle Je Préviens. C'est un réseau connecté entre voisins qui peuvent signaler une effraction par un simple message. Le reportage de Noémie Loisel.
Vol de voiture, tentative d'effraction ou encore cambriolage. Sur l'application, les habitants peuvent signaler ces infractions dans un périmètre de 3 km autour de leur domicile.
On envoie en fait comme un SMS en fait, et puis ça va effectivement prévenir toutes les personnes qui ont l'application.
Des alertes qui rassurent Daniel. Alors que cet agent de la circulation travaillait, il a été alerté sur son téléphone d'une tentative d'intrusion dans son garage, ce qui a permis à son voisin d'intervenir.
Le voisin est arrivé, en fait, il n'y avait plus personne. Le fait de que les gens soient un petit peu à l'affût tout et puis que préviennent, ça peut éviter effectivement le cambriolage. Ouais.
Un sentiment partagé par Fabrice, ce chauffeur de bus est souvent absent de son domicile.
Je pars à 6h30, je rentre à 8h le soir, ça fait quand même une grosse journée sans savoir ce qui se passe ici. Même quand je suis en vacances et tout, j'ai jamais vu une voiture de gendarme passer dans le quartier. Donc c'est bien s'il y a quelqu'un qui me dit « attention, il y a quelqu'un chez toi ».
Seule inquiétude, dans ce village, certaines personnes âgées n'ont ni téléphone ni internet et ne pourront pas télécharger l'application. Sermès, Noémie Loisel, Europe 1.
Europe 1 est 13h10.
13h-14h, Céline Géraud.
Une quinzaine de lignes sur votre fiche de paie au lieu des 55 actuelles. Bruno Le Maire présentait ce matin au Conseil des ministres son plan d'action pour simplifier le quotidien des Français et celui des entreprises. L'objectif, moins de paperasse. Margot Faudéré, c'est un véritable choc de simplification qui a été présenté.
Oui, avec beaucoup de mesures concrètes. D'abord pour réduire les démarches administratives, à commencer par les fameux formulaires CERFA qui empoisonnent la vie des entrepreneurs. On en compte 1800 différents en France. 80% d'entre eux vont être supprimés d'ici à 2026 et la totalité d'ici à 2030. Autre exemple de suppression, la déclaration des arrêts maladie par l'employeur, comme l'a expliqué ce matin Bruno Le Maire.
Le salarié va voir son médecin, il y a une déclaration d'arrêt maladie qui est faite, qui est renvoyée à l'employeur, que l'employeur doit à nouveau renvoyer à l'assurance maladie alors même qu'elle l'a déjà. Donc ça fait de l'encombrement. 15 millions de déclarations seront supprimées immédiatement dès cette année.
Ce n'est pas tout. Bruno Le Maire veut aussi simplifier les règles de commande publique. Aujourd'hui, à chaque fois qu'une entreprise souhaite participer à un nouvel appel d'offres, elle doit se déclarer auprès de l'administration. Demain, elle pourra créer un dossier unique en ligne qui servira pour chaque commande. Le plan d'action du gouvernement prévoit aussi de réduire le nombre de normes. Selon le Sénat, elles coûtent chaque année près de 60 milliards d'euros à la France. Cela passera notamment par l'instauration d'un test PME pour vérifier l'utilité réelle de toute nouvelle norme sur le terrain avant de la mettre en place.
Les explications de Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Cela fait 200 jours que la guerre entre Israël et le Hamas a débuté. 200 jours depuis les massacres du 7 octobre. 1140 personnes, essentiellement des civils, ont été tuées. 250 autres kidnappées. Un traumatisme avec lequel la société israélienne tente de continuer à vivre. Le reportage de la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv, Ariane Ménage.
Depuis 6 mois, Rachel et Doron se relaient sur la place des otages. 6 mois que ces 2 psychologues d'une 60aine d'années ont installé ici une tente et quelques chaises. Ils proposent des premiers secours psychologiques.
Les gens viennent nous parler de la situation et nous raconter comment ils se sentent.
Ici, ils rencontrent, semaine après semaine, des victimes directes du 7 octobre, leurs proches ou de simples citoyens, encore choqués par ces massacres et la faillite de l'État ce jour-là.
Je crois qu'il y a encore beaucoup de désespoir. Et puis, le sentiment qu'il n'y a pas de progrès ni de solution. La grande question, c'est comment revenir à la normale dans une telle situation.
Car 200 jours après le 7 octobre, les buts de guerre annoncés ne sont pas atteints. Plus de 130 otages sont toujours détenus à Gaza. S'ajoute aussi la menace de voir la guerre s'étendre sur d'autres fronts. Tel Aviv, Ariane Ménage, Europe 1.
13h12, le saviez-vous, la France est championne d'Europe des centenaires, selon une étude de l'Institut national des études démographiques dévoilée ce matin. Eh bien, le nombre de centenaires ne cesse d'augmenter ces 20 dernières années. Et Yasmina Katou, les femmes sont de plus en plus nombreuses à atteindre cet âge canonique.
Oui, 86% des centenaires sont des femmes et même 90% des super centenaires, c'est-à-dire des plus de 105 ans, sont des femmes. Au total, on compte 31 000 centenaires français, soit 30 fois plus qu'il y a 20 ans. Alors, difficile d'expliquer clairement cette surreprésentation féminine. Plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment le suivi médical des femmes au cours de la vie, qui est plus important, notamment grâce à la grossesse. Par ailleurs, l'étude montre que les champions de la longévité sont les Antillais. Il y a 8 fois plus de super centenaires en Guadeloupe et en Martinique qu'en métropole. Un phénomène encore mal compris des chercheurs, mais plusieurs pistes sont avancées. En fait, il y aurait eu une sorte de sélection naturelle au moment de la traite des esclaves. Au fil des siècles, seuls les plus robustes des esclaves ont survécu dans des conditions de vie extrêmes. Les descendants d'esclaves pourraient donc avoir développé des gènes particuliers. Cette hypothèse reste à confirmer. En tout cas, aujourd'hui, notre doyenne à nous vit en Vendée. Marie-Rose Tessier fêtera ses 114 ans le 21 mai prochain.
Merci Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1.
Il est 13h14 et cet après-midi, Emmanuel Macron rechausse les crampons, Céline, pour un match de football au profit des pièces jaunes.
Oui, 2 ans et demi après son dernier match avec le Variété Club de France, le président de la République remet ça sur la pelouse de plaisir, c'est dans les Yvelines, aux côtés d'une belle brochette de stars du football. Cyril de la Morinerie, vous allez suivre ce match pour Europe 1, vous êtes déjà sur place. Le président sera très bien entouré cet après-midi.
Ah, c'est le moins que l'on puisse dire, hein. Céline, Emmanuel Macron va jouer milieu de terrain avec le maillot numéro 9 et il sera entouré de Didier Deschamps, du légendaire Johan Niskens qui a été l'ancien donc, coéquipier de Johan Cruyff, notamment à l'Ajax Amsterdam. Devant donc, cette équipe du Variété Club de France, il y aura Eden Hazard, Didier Drogba, Robert Pires et en défense, on va retrouver la paire magique des Bleus de 98, Marcel Desailly et Laurent Blanc. Emmanuel Macron qui avait transformé un pénalty lors de son dernier match avec le Variété est un très bon footballeur, en exclusivité, Marcel Desailly ce matin, donc c'était au micro d'Europe 1.
On est serein parce qu'il nous a montré qu'il était au fait des choses lors du match précédent que l'on a fait avec lui dans le cadre des pièces jaunes. Donc encore une fois, on est ravis de l'avoir à nos côtés. Il sera un coéquipier comme les autres et on le rappellera à l'ordre quand, comme s'il le faut. Mais oui, et alors, et pourquoi?
Vous l'avez entendu, il sera le président de la République, un coéquipier comme un autre, peut-être, mais pas sûr quand même. Laurent Blanc, que l'on surnomme dans le football le président, va évoluer avec le président, le vrai président.
Je sais que le football l'intéresse beaucoup, je sais qu'il a beaucoup d'intérêt pour l'Olympique de Marseille. On va essayer de s'amuser d'abord,
ben oui.
Que ce soit pour lui ou que ce soit pour nous. Et Dieu sait que ce monsieur doit apprécier ces moments-là parce qu'il ne doit pas être souvent présent dans son emploi du temps.
Et voilà, coup d'envoi de ce match à 17h, à plaisir dans les Yvelines.
Merci, c'est que du plaisir. Merci Cyril de la Morinerie, évidemment, petit vénard, avec nous en direct dans Europe 1. Allez.